Europe 1 Découverte s'intéresse ce matin à l'espionnage dans les coulisses du pouvoir, à l'occasion de la parution d'un livre enquête sur les méthodes utilisées par les États-Unis pour espionner systématiquement la France depuis les débuts de la Ve République. Vincent Nouzy, votre invité Michel, nous présente les dossiers de la Maison-Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents. Pour écrire ce livre, publié chez Fayard, il a eu accès à des documents confidentiels et inédits. C'est à vous jusqu'à 11h.
Vincent Nouzy, bonjour. Des secrets si bien gardés, donc les dossiers de la Maison-Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents. 1958-1981, c'est une longue période. Il a fallu donc attendre tout ce temps-là pour ouvrir les dossiers, pour avoir accès aux documents.
Oui, un certain nombre de ces dossiers officiels américains, qu'ils proviennent de la Maison-Blanche, mais aussi des autres départements, comme le département d'État, donc les télégrammes diplomatiques par exemple, mais aussi des agences de renseignement, et puis aussi du Pentagone, enfin, tout ça est rassemblé et déclassifié au bout de 25-30 ans. Donc, sur la période qui m'intéressait, 58-81, évidemment, on peut avoir accès. Le seul problème, c'est qu'il faut aller là-bas.
Vous avez beaucoup voyagé pour ça.
Il faut aller là-bas parce que ces documents ne sont pas accessibles sur Internet, ou alors une toute petite proportion. Et c'est une manière de semer le chercheur, parce que et de dissuader le chercheur, puisque chaque président américain a les archives qui sont localisées dans son état d'origine, en quelque sorte.
Bien sûr.
Donc, par exemple, toute la période de Kennedy, eh bien, il faut aller à Boston chercher les archives de la période Kennedy à Boston. Et puis, pour, par exemple, Jimmy Carter, ben, c'est à Atlanta. Pour Ronald Reagan, c'est à Los Angeles.
Il y a Ford aussi.
Il y a Gerald Ford, il y a Richard Nixon, bien sûr. Je parle de Johnson, évidemment.
Kennedy, bien sûr.
Et puis, le premier qui était Eisenhower, quand même, qu'on a un petit peu oublié, dont la bibliothèque se trouve au milieu du Kansas.
Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit à la lueur de ces documents que finalement l'Amérique nous a espionnés pendant 50 ans.
Alors,
continue à le faire.
Elle nous regarde, évidemment.
Oui, elle nous regarde.
D'abord, elle nous écoute beaucoup. Et Dieu sait si les Français sont bavards, on y reviendra certainement. Et puis, elle nous espionne aussi. Alors, pourquoi? En fait, il est très intéressant de se demander pourquoi est-ce que la France a été un objet de curiosité si grand pour les Américains. Et dans le fond, on se dit que jusqu'en 1958, sous la 4e République, dans le fond, la France était un peu sous tutelle américaine, qu'elle soit tutelle un peu économique, un peu militaire. Les hommes politiques de la 4e mangent un peu au râtelier américain, il faut le dire tel que. Et puis, De Gaulle va surgir, on verra dans quelles conditions, mais De Gaulle surgit et lui, il est détesté par les Américains.
Ah, ça se passe pas bien avec De Gaulle.
Ah, ça se passe pas très bien.
Mais il y a un contentieux déjà.
Il y a des vieux contentieux qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, dans le fond, lui veut restaurer la souveraineté nationale, une forme de grandeur un peu perdue. Et c'est vraiment ça qui va être le bras de fer terrible entre De Gaulle qui devient absolument imprévisible, intraitable sur un certain nombre de dossiers et qui même fait des déclarations tonitruantes contre l'hégémonie américaine dans le monde, les positions de la guerre d'Indochine, etc. Donc, ce bras de fer va naître de ça. C'est-à-dire, la France est vraiment l'élève turbulent, rebelle du camp occidental.
Alors, on va passer en revue les relations exactes que la France de De Gaulle, celle de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, de Chirac et maintenant de Sarkozy. Mais enfin, celle de Sarkozy.
Ce sera le deuxième tome.
Il faudra attendre le deuxième tome en 2010. Quelle était l'exacte relation avec les Américains? Alors, les coulisses du pouvoir ont donc été observées, espionnées, écrivez-vous, de manière systématique par l'Amérique. Alors, qui voulait exactement tout savoir sur notre pays? Alors, il y avait des informateurs qui avaient été recrutés jusqu'au plus haut niveau? Il y avait des taupes partout? Comment ça se passait?
Alors, il y a l'ensemble de la classe politique. Ça, c'est le premier niveau. C'est le travail diplomatique relativement classique. C'est-à-dire, à l'ambassade des États-Unis à Paris, il y avait un certain nombre de diplomates plutôt de très bon niveau, d'ailleurs, qui aiment bien venir à Paris, hein, parce que c'est pas une station très compliquée. Enfin, le mode de vie était plutôt agréable. Et qui, observent et ont des relations, donc, avec l'ensemble de la classe politique. La classe politique au pouvoir, donc, à l'époque de De Gaulle, c'était De Gaulle, mais après, ce sera les Giscardiens, puis après, Mitterrand, etc. Et puis, l'opposition, toujours. tour. On regarde ce qui se passe dans l'opposition. Il y a des relations, on le verra, il y a des relations avec...
Parce qu'on prépare la suite.
On prépare toujours la suite. On prépare l'après de Gaulle, après on prépare l'après Pompidou, après au moment de Giscard, au moment des élections, il y a toujours une espèce de bascule. Il faut mieux être informé des deux côtés. Donc ça, c'est le volet, disons, officiel des télégrammes diplomatiques, mais parfois avec des choses très cocasses et des jugements très sévères ou très amusant sur les hommes politiques français. Et puis surtout, on s'aperçoit que les hommes politiques français adorent raconter leur vie aux Américains.
Ils sont très loquaces. Voilà. Hein. Ils multiplient les confidences sur leurs ambitions, leurs tactiques, leurs équipes.
Leur stratégie, absolument. Le cas de Mitterrand, peut-être on y reviendra, mais absolument stupéfiant. C'est une des grosses découvertes que j'ai faites. C'est-à-dire que Mitterrand, dans le fond, avant même qu'il n'arrive au pouvoir en 1981, il a des relations très étroites avec les Américains. Ils se sont dragués mutuellement. Donc il y a eu une espèce de, comme ça, d'approche réciproque à partir de, on peut dire, à partir de 1965. 1966, c'est-à-dire après que Mitterrand ait été candidat contre le général de Gaulle et l'ait mis en ballottage. Donc ça devient un homme politique très sérieux, et pour les Américains, ils vont le suivre comme ça pendant 15 ans jusqu'à son accession au pouvoir.
Alors, c'est incroyable, parce que de la guerre d'Algérie aux ventes d'armes à la Libye, de mai 68 à la montée de l'Union de la Gauche, de la santé des présidents aux querelles intestines, tout y passe. Rien n'échappe à l'Amérique.
Alors, rien n'échappe à l'Amérique. Ils font des notes sur absolument tout.
Et ils gardent ça. Hein.
Tout est gardé, conservé, précieusement. Alors, c'est ouvert donc une trentaine d'années après. Donc, ça permet de regarder tout ça. Et puis, il y a des choses, par exemple, y compris sur les épouses des présidents. On apprend que lors des voyages présidentiels, Georges Pompidou tient son épouse par la main, qui sont très proches. On apprend aussi, les Américains ne sont pas dupes, que Mitterrand n'est plus avec son épouse depuis longtemps.
C'est enfin, incroyable.
Voilà, des choses comme ça.
On imagine ce que dans 30 ans, on va écrire sur ce qui se passe dans la vie personnelle. Et Dieu sait si déjà beaucoup de choses ont été écrites, la vie personnelle du président Sarkozy.
Oui, et puis même sur la période Chirac et Mitterrand, sur lequel je vais revenir dans le deuxième tome.
Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la CIA a déjà commencé à observer ce qui se passe dans la gauche française, autour de Ségolène Royal.
Je ne peux pas révéler ce qu'il y aura dans le deuxième tome, mais j'ai déjà les petites choses qui sont déjà amusantes. Oh oui, absolument fantastiques, y compris sur la campagne présidentielle de 2007.
Oui, très bien. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant.
On retrouve Michel Drucker et son invité Vincent Nouzi pour son livre « Des secrets si bien gardés ». C'est chez Fayard.
Vincent Nouzi, alors on va entrer dans le détail. Je rappelle quand même que pendant plus de 5 ans, vous avez dû parcourir quelques continents pour récolter près de 10 000 documents photocopies. J'ai le livre là sous les yeux, il y a des photocopies d'originaux. Hein.
Oui, d'ailleurs je vous ai apporté, parce que ça va vous faire plaisir, un des documents que j'ai déniché là-bas. Alors le contenu du document est connu, mais c'est, vous savez, cette fameuse lettre du général de Gaulle lorsqu'il sort du commandement intégré de l'OTAN. On a beaucoup parlé du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN décidé par Nicolas Sarkozy. Eh bien, le général de Gaulle, quand il prend cette décision, vous savez ce qu'il fait ? Il prend sa plus belle plume et il écrit à la main, sur un joli papier, a en tête le général de Gaulle, 7 mars 66, au président américain, pour lui dire « Monsieur le président américain, regardez, c'est une lettre qui n'existe pas dans les archives de l'Élysée, j'ai vérifié. »
Alors nous sommes à la radio, mais c'est saisissant. Le général de Gaulle,
mon cher président,
7 mars 1966, monsieur, cher président, avec l'écriture couchée de Gaulle.
Voilà, il y a 4 pages, il annonce de manière, avec son style absolument inimitable, c'est pourquoi la France se propose de recouvrer sur son territoire, bon, je mets pas le ton parce que je sais pas faire le de Gaulle, mais l'entier exercice de sa souveraineté actuellement entamée par la présence permanente d'éléments militaires alliés. Donc c'est le type de document, des pièces absolument historiques, hein, que l'on trouve. Donc celui-là, je l'ai déniché à Austin, Texas, dans les archives du président Johnson.
Alors, les relations entre l'Amérique et de Gaulle sont très compliquées. Avec Eisenhower, ça marchait pas très fort. On est en mai 58. La 4e République est au bout du rouleau et la France est ensevelie dans le bourbier algérien.
Oui, alors il faut vraiment se remettre dans ce contexte un peu tendu.
D'abord, René Coty à l'Élysée.
Voilà, alors, le président du Conseil qui était pressenti, c'était Pierre Fimelin.
Fimelin, oui.
Bon, a des problèmes, n'est pas accepté par. Donc, il y a ces fameux comités de salut public à Alger. Voilà, bon, il y a l'ensemble d'événements à Alger qui fait qu'il y a une espèce de rupture entre les Français d'Algérie et puis et les militaires même et le pouvoir à Paris. Donc, on est vraiment dans une crise, dans un désordre. Et les Américains, dans le fond, craignent quoi? On est dans un contexte de guerre froide, vraiment très, très, très profond. Et les Américains craignent surtout un désordre qui favoriserait une mainmise communiste et une avancée communiste en Europe. Et la France, c'est un peu le maillon faible possible de l'Europe, avec cette Algérie, ce conflit en Algérie, qui est vraiment l'épine dans le pied.
Ça complique la donne, ça.
Ça complique la donne. D'abord, ça affaiblit militairement la France. Mmh. Ça distrait une partie de ses forces militaires au détriment, si je peux dire, du renforcement de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, dont elle est membre et cofondatrice. Donc, c'est pas bon du tout pour le camp occidental. Et donc, à un moment donné, face à un désordre, eh bien, il vaut mieux encore un homme d'ordre. Et le général de Gaulle l'incarne. Alors, les Américains, je le révèle, vont donner un tout petit coup de main au général. Il s'agit d'en fait, vous savez qu'à un moment donné, fallait le vote de l'Assemblée pour que le général de Gaulle soit nommé chef du gouvernement de la quatrième finissante. Et donc, il y a un problème avec le vote du groupe socialiste à l'Assemblée qui est très divisé. Et donc, les Américains qui ont des relations très étroites avec les socialistes français, notamment Guy Mollet,
La SFIO
de la vieille époque, oui. Ils vont faire passer des messages assez précis quand même aux socialistes français sur le thème. Écoutez, si vous n'êtes pas vraiment contre De Gaulle, au moins abstenez-vous. Et donc c'est comme ça que le vote en faveur de De Gaulle va pouvoir passer. Donc il est difficile de savoir s'il y a eu un lien de suggestion entre les Américains et les socialistes français à ce moment-là, mais on voit bien qu'ils favorisent De Gaulle. Mais ils sont sans illusion sur le bonhomme.
Pour venir à l'Algérie, pour les Américains, l'indépendance d'Algérie était inévitable.
Ah oui, alors ça, il faut arrêter de penser que les Américains, à cette époque-là, étaient favorables à l'Algérie française. Au contraire, il faut voir que les États-Unis, c'est une puissance qui a eu une guerre d'indépendance coloniale. Donc, elle est issue d'une guerre d'indépendance. Donc, les Américains, à cette époque, on est au début des années 60, sont encore un espèce de pays plein de ferveur sur la décolonisation et ils sont pour l'indépendance de l'Algérie. Ils le disent carrément au général de Gaulle. Et le général de Gaulle et son gouvernement sont très fâchés de cette forme d'ingérence dans les affaires intérieures françaises. Et ils ne supportent pas notamment qu'il y ait des contacts entre les Américains et les Algériens, le FLN en exil. Donc ils sont très fâchés, notamment ils les suspectent d'armer même un peu le FLN algérien.
Alors il faut rappeler que face à la menace d'un débarquement imminent des troupes menées par le général Massu, le président Coty démissionne. Et le 29 mai 58... Il fait appel au plus illustre des Français, le général de Gaulle, et là, la 4ème République est morte.
Elle est morte, elle mourra définitivement avec l'adoption de la nouvelle constitution à la fin de 58, et là, le général de Gaulle sera fermement installé dans son poste, et là, les Américains vont commencer à souffrir.
Allez, une place musicale. Tiens, je suis sûr que le général de Gaulle n'avait pas été insensible à la chanson de Sardou de France.
9h51, on retrouve Michel Drucker et son invité.
Vincent Nouzy, on va parler au cours de cette émission des relations entre l'Amérique et Giscard, entre l'Amérique et Mitterrand, l'Amérique qui surveillait Mitterrand pour savoir où en était l'union de la gauche. La bagarre entre Mitterrand et Giscard était observée à la loupe. Mais d'abord, on va rappeler quand même que sous la 5ème République, alors la 4ème est morte, on vient de le dire, René Coty est parti, De Gaulle arrive. De Gaulle, c'est 1959-69, Pompidou 69-74, Valéry Giscard d'Estaing 74-81, François Mitterrand 80-95, et la suite on connaît. Et aux États-Unis, vous l'avez dit, Eisenhower, JFK, Johnson, Nixon, Ford, Carter et Reagan. Alors, encore un mot sur De Gaulle, l'attentat dont il est victime en 61, le 8 septembre, parce qu'avant le petit Clamart, il y avait ça. Route de l'Aube, à 21h15.
Pont-sur-Seine.
Reparlons de cet attentat.
Alors, en fait, on sait que, en Algérie, les ultras de l'Algérie française ne sont pas du tout favorables à la politique d'autodétermination qui a été prônée par De Gaulle à la fin de 59. Ils considèrent que c'est une trahison. Donc, il y a ce qu'on appelle, après, qu'il y ait eu le putsch avorté des généraux en avril 61 à Alger. Putsch dont les Américains sont parfaitement informés par la CIA. Je raconte vraiment le détail de presque minute par minute des rapports américains sur le sujet. Eh bien, il y a en septembre, l'OAS est né. L'OAS veut la peau du général, la grande Zora, comme disait
L'OAS, c'est Salan, Susini.
Voilà, ce sont les ultras, ce sont des militaires, ils ont loupé le putsch en quelque sorte, mais ils veulent absolument, il y a une multiplication des attentats en Algérie, mais aussi en France, et ils veulent arrêter la politique algérienne du général, y compris donc en assassinant le général de Gaulle.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il redoute que cette politique d'autodétermination précipite plus d'un million de Français du sol algérien.
Ce qui se passera d'ailleurs
avec les pieds noirs.
Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que quand on ausculte l'ensemble des archives américaines sur la France, sur ces sujets, ben dans le fond, on revisite tout ça. Ça nous permet de revoir, de revivre en fait ces événements avec un œil assez parfois étonnant. C'est-à-dire qu'ils sont au courant du Puget Généraux lorsqu'il y a cet attentat de Pont-sur-Seine.
Ils sont au courant. La CIA est au courant de ça.
Ils sont pas au courant la veille, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent pertinemment que si le détonateur avait fonctionné, eh bien, De Gaulle serait mort. Et puis, petit à petit, la menace de l'OAS grandit entre 61 et 62 jusqu'au fameux accord d'Évian, et même après, puisqu'il y aura le fameux attentat du Petit Clamart à l'été de 1962, donc quelques mois après. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a les bouts de feu, il y a ceux qui veulent vraiment découdre avec De Gaulle. Et les Américains ont une attitude assez étrange. Dans le fond, ils n'aiment pas beaucoup De Gaulle, on pourra y revenir, mais ils n'aiment pas non plus le désordre. Et donc, si jamais De Gaulle était assassiné, ce serait quand même terrible pour la France. Parce que, à leurs yeux, dans le fond, il y a De Gaulle et puis il n'y a rien d'autre. Il y a les communistes en face, donc entre les deux, ils estiment même qu'il a fait un peu le vide et qu'il est un peu responsable de cette situation politique dans laquelle il domine tellement le paysage politique français que s'il disparaissait, ce serait vraiment une catastrophe.
Mais De Gaulle ne supporte pas cette ingérence de l'Amérique dans les affaires franco-algériennes.
Alors par exemple, il est absolument furieux. Il suspecte même les généraux putschistes d'avril 61, dont Maurice Challes, le général Challes, d'avoir été un peu aidé discrètement par les Américains. Il faut se souvenir que le général Challes avait été en poste à l'OTAN, dans les commandements de l'OTAN, et qu'il avait évidemment des contacts très étroits avec les généraux américains, avec le Pentagone. Et il a même fait des appels du pied, en quelque sorte, en disant, écoutez, voilà, si jamais nous réussissons le putsch, eh bien, peut-être vous pourriez nous donner un coup de main. Les Américains ne le suivent pas, ils sont même prêts à donner un coup de main à De Gaulle, y compris militaire, pour l'aider à enrayer ce putsch.
Alors, en janvier 61, le patron de la CIA, c'est Allen Dulles.
Ah oui, c'est un grand personnage.
Et c'est lui qui rencontre au nouveau président, car c'est Kennedy maintenant, qui est à la Maison Blanche, du climat de haine anti-gaulliste qui règne au sein de l'armée française.
Ah oui, donc
Kennedy est déjà au courant de tout.
Ils savent très bien que dans le corps de l'armée française, parmi les officiers et les généraux, eh bien, on est absolument contre la politique du général De Gaulle en Algérie. On est contre cette forme de ce qui est considéré comme un abandon. Et donc, quelque part, ils pressentent bien à la fois le putsch qui aura lieu en avril.
Est-ce qu'ils soutiennent le putsch, les Américains, déjà?
Non, ils le laisse faire, on sent qu'il y a une espèce de petite tentation de certains éléments du Pentagone, par exemple, ou de la CIA.
Enfin, Washington voulait l'indépendance de l'Algérie.
Mais en fait, il savait très bien que si Maurice Charles Salan Zeller prenait le pouvoir, eh bien, il n'aurait évidemment pas accordé l'indépendance de l'Algérie, et c'était totalement contraire aux intérêts américains, en Afrique notamment.
Alors, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que la CIA a des agents en Algérie? Ils en ont partout?
Oui, ils en ont absolument partout. Par exemple, ils ont des agents au sein de l'armée française, dans les états-majors.
Ils ont des taupes partout.
Ils ont des taupes partout, y compris donc parmi les putschistes, les rebelles avec lesquels ils ont des contacts. Et puis, ils ont aussi des contacts dans le commandement intégré de l'OTAN. Ils ont des contacts chez les Français, qui sont toujours membres de l'OTAN à ce moment-là. Et puis, ils ont aussi, il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'il y a même des diplomates américains à Washington qui bidouillent les ondes courtes de radio afin d'écouter en direct les échanges radio entre les putschistes. Donc ils sont au courant quasiment comme si on était à la radio.
Mais alors, à la fin de la guerre d'Algérie, vous dites qu'il y a des plans d'intervention militaire en France
qui ont été préparés
par le Pentagone au cas où on assassinerait le général De Gaulle.
Alors, ça c'est vraiment un document qui m'a absolument
stupéfait. C'est vraiment une anticipation pointue. Hein.
Une révélation énorme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on constate? Après la fin de la guerre d'Algérie, on est en les accords d'Évian, l'Algérie est indépendante, donc y compris en 63 et 64, les Américains continuent d'être très inquiets sur des risques d'assassinat du général De Gaulle, et donc ils sont là en train de regarder toutes les hypothèses possibles. Qu'est-ce qui se passerait? Et selon eux, le risque serait moins d'une prise de pouvoir communiste que d'une espèce de retour des putschistes, en quelque sorte des militaires, et voire des gorilles gaullistes qui prendraient le pouvoir avec des militaires. Donc en fait, ils craignent, c'est un risque d'extrême droite, oui. Un coup de force, un coup d'État, tout simplement, d'extrême droite en France. Et face à ce risque, eh bien, ils sont prêts à intervenir militairement en France. Alors, vous savez que les Américains ont des forces qui sont stationnées en Allemagne, évidemment, beaucoup de militaires, et aussi en France. Donc, ils se préparent un certain nombre de plans afin d'étudier qu'est-ce qui se passerait si jamais De Gaulle était assassiné. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement mettre les GIs aux quatre coins de Paris afin de restaurer un peu d'ordre?
Moi, ce qui me fascine, c'est que le département d'État et la CIA réussissent à avoir des taupes un peu partout, au Quai d'Orsay, bien entendu.
Alors ça, c'est une histoire absolument stupéfiante.
Vous dévoilez d'ailleurs l'identité de certains.
D'une des taupes principales.
C'est de Granville, non ?
De Jean de la Granville.
Jean de la Granville.
Voilà.
Ça.
Alors c'était un. Il faut expliquer qui c'était et puis ce qu'il a fait surtout. C'était un des grands directeurs du Quai d'Orsay, un diplomate de carrière, de renom. Il avait été en poste à Moscou, à Washington, à l'OTAN. Enfin bref, il était surtout au cœur du pouvoir parce qu'il était un des directeurs du Quai à côté du ministre de l'époque, ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Maurice Couve de Murville, qui était vraiment le
grand ministre des Affaires étrangères,
le grand bras droit du général de Gaulle. Et donc, ils étaient en prise directe sur ce qui était en train de se tramer, notamment sur l'OTAN, parce que le général de Gaulle avait prévenu les Américains en disant « soit on réforme l'OTAN, soit je m'en vais ». En gros, c'était un peu ça depuis 58, ils n'arrêtaient pas de leur répéter ça. Et à un moment donné, cette décision va mûrir, se préparer. Et il faudra attendre la réélection en décembre 65 du général de Gaulle pour qu'il se sente réinstallé, relégitimé par le suffrage universel. Et en mars 66, il décide qu'il sort du commandement intégré. Et les Américains sont totalement informés, mais heure par heure, et je raconte l'ensemble des relations entre ce directeur du Quai d'Orsay et les Américains, qui les informent heure par heure de ce qui se mijote à l'Élysée, les plans du général de Gaulle et la décision finale qui est « je sors du commandement intégré ».
Enfin, le travail de ces taupes, notamment de Jean de la Granville, est resté secret, inconnu pendant des décennies. Je crois que c'est un confrère, Vincent Jouvert, qui a mis à jour en 2000 une partie de son action clandestine. Ça veut dire que ce diplomate français, en juin 64, était déjà informateur de la CIA.
Il le sait d'ailleurs, il le sait pertinemment. Je pense qu'il le fait parce qu'il est horrifié par la politique de Gaulle. Hein. C'est vraiment c'est probablement pas un espionnage pour des raisons matérielles. C'est vraiment cette politique du général de Gaulle, lui c'est un atlantiste dans le fond, et il craint surtout que de Gaulle ne rejoigne Moscou, c'est ça sa crainte finale.
Vincent Nouzy, on va se retrouver après les infos de 10h.
Continuons de parler de ce livre, Des secrets si bien gardés, publié chez Fayard, avec son auteur, Vincent Nouzy. Il est journaliste indépendant, après avoir été grand reporter à l'Express et à l'Expansion. Il a enquêté sur les coulisses du pouvoir en France et aux États-Unis. Et il nous révèle les méthodes d'espionnage pratiquées par la Maison-Blanche et la CIA pour espionner nos dirigeants, nos présidents et les événements qui ont marqué la vie politique française de 1958 à 1981, comme la guerre d'Algérie ou encore mai 68. Michel Drucker.
Vincent Nouzy, on reste sur De Gaulle et mai 68 qui va finalement amener son départ. Comment la CIA a observé mai 68 ? Elle l'avait anticipé ?
Alors, elle n'avait pas vraiment anticipé. Il faut savoir qu'elle n'était pas le seul à ne pas l'anticiper. J'ai retrouvé une dépêche très drôle où l'on voit Valéry Giscard d'Estaing qui est en visite aux États-Unis le 22 mars 1968. Le 22 mars, c'est le moment où la Sorbonne commence à s'agiter et qui dit aux Américains, mais je le cite, qui ne voit pas de crise politique majeure venir à un horizon raisonnable. Donc voilà, donc a priori, tout est calme en France. Et puis finalement, à un moment donné, il y a cette espèce d'agitation. Alors les Américains disent, c'est quoi cette agitation et studentine? Et puis ils regardent, ils se demandent si c'est pas communiste dans le fond. Alors ça, c'est leur crainte. Et surtout que le leader s'appelle Daniel Cohn-Bendit.
Daniel le Rouge.
Surnommé Daniel le Rouge, c'est l'horreur pour eux. Et puis finalement, ils se rendent compte, ils sondent, ils envoient leurs émissaires et leurs agents chercher de l'information. D'une part, à la Sorbonne, c'est-à-dire dans le quartier latin, ils envoient des diplomates qui sympathisent avec les étudiants pour savoir en gros ce qu'ils préparent, ce qu'ils mijotent, quelles sont leurs positions. Ils se rendent compte qu'ils sont plutôt extrême gauche dans le fond ou inspirés par Mao plutôt que par l'URSS. Donc ils sentent bien que le communisme à la mode soviétique c'est pas leur truc. Ils se renseignent aussi auprès du ministère de l'Intérieur et on leur dit, vous savez, même le Parti communiste français est contre ce mouvement étudiant et il nous aide même à maintenir l'ordre, le Parti communiste français. Donc les Américains sont rassurés en disant c'est pas les communistes qui vont prendre le pouvoir en mai 68. Mais alors il y a quand même une espèce de chaos. Alors ce qui les réjouit dans le fond, c'est ce qu'ils appellent cette révolution culturelle à la française. Alors évidemment le terme est impropre puisque révolution culturelle, on sait que ça a fait des millions de morts en Chine, mais en France il y a une espèce de réjouissance des Américains. Ça fait 10 ans qu'ils affrontent ce général qui est vraiment leur bête noire depuis 10 ans et qui ne cesse de les harceler aux quatre coins de la planète en leur disant que au Québec vive le Québec libre, que l'Indochine, etc.
Qui est incontrôlable.
Il est incontrôlable, imprévisible, hermétique à toute influence, à tel point que l'ambassadeur des États-Unis à Paris, pendant longtemps, dit c'est même pas la peine de faire une rencontre entre chefs d'État puisqu'il y a, en gros, il y a rien à tirer de ce général. Et donc entre 1961 et 1969, il n'y a aucune rencontre au sommet. Imaginez ça aujourd'hui. C'est comme si Sarkozy et Obama décidaient qu'ils ne se voyaient pas pendant 8 ans. Enfin, c'est absolument hallucinant. Alors, donc, quand arrive mai 68, cette secousse tellurique à l'intérieur de la France, il dit « Ah ah !» Enfin, des gens qui vont faire trembler ce général. Donc, ils sont pas du tout mécontents de mai 68.
Et le départ du général ?
Alors, évidemment, ils sont tellement obnubilés par leur anti-gaullisme qu'ils ne voient pas venir, par exemple, le retour en force après l'éclipse à Baden-Baden le 30 mai, et puis ce raz-de-marée gaulliste aux élections de juin 68. Donc, pour eux, De Gaulle était un provocateur, il n'avait rien compris à ce qui s'était passé, et dans le fond, il aurait dû partir. Même, il pronostique son départ lorsqu'il est à Baden-Baden. Et puis, ils savent bien qu'il s'est affaibli quand même sur ces questions domestiques de politique intérieure et qu'il faut des nouveaux hommes, des nouvelles réformes. Et donc, quand arrive l'affaire du référendum en avril 69 et que De Gaulle met son pouvoir dans la balance, en quelque sorte, c'est une forme de plébiscite pour ou contre De Gaulle, les Français votent contre ce référendum, et bien De Gaulle s'en va. Et les Américains se frottent les mains, mais en silence. Il y a des consignes secrètes du département d'État qui consistent à dire « Surtout, cachez votre satisfaction
». Alors, les relations entre Eisenhower et De Gaulle étaient détestables. Et les relations entre De Gaulle et Kennedy ?
Alors, si on revient un petit peu sur les relations au sommet, puisque les archives, là, sont extrêmement intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles révèlent, dans le fond, que c'est pas du tout ce qu'on croit ou ce qu'on voit. On a l'image, vous savez, de cette visite de Jackie Kennedy avec John Fitzgerald Kennedy à Paris, ce triomphe, effectivement, grand triomphe.
Le 31 mai 61.
Voilà, la Galerie des Glaces à Versailles, le dîner, une forme de drague presque entre le général de Gaulle et Jackie Kennedy. Bon, tout ça, c'est pour la galerie. Il faut être clair, les archives sont formelles. Du côté américain, il y a une note très précise du département d'État qui dit c'est une opération de communication politique. Vous voyez que on n'a rien inventé. Finalement, ça existait déjà à l'époque. Pour Kennedy et son épouse, il faut qu'ils, c'est le début de leur mandat aux États-Unis, il faut qu'ils rayonnent et qu'ils fassent une grosse impression sur l'opinion publique française et le gouvernement. Eh bien, ça va marcher. Mais sur le fond, les discussions, les entretiens en tête à tête entre le général de Gaulle et Kennedy, je les révèle dans le détail, c'est glacial. Dans le fond, ils sont d'accord sur rien à part un peu sur Berlin.
Mais il faut se souvenir qu'en 57, alors que Kennedy n'était que sénateur, il s'était prononcé en faveur de l'indépendance de l'Algérie.
Alors ça, vous croyez-moi
que... Et De Gaulle s'en était souvenu.
Le général De Gaulle a la mémoire longue. Il n'a jamais pardonné à John Fitzgerald Kennedy d'avoir s'être prononcé pour l'indépendance de l'Algérie. Et même mieux que ça, il a soutenu son rival Richard Nixon dans les élections 1960. Et pendant toute la traversée du désert de Richard Nixon, c'est-à-dire les années démocrates de Kennedy et Johnson, il reçoit Nixon à l'Élysée et il lui donne des conseils. Et donc, quand il sera élu Nixon à la fin de 68, eh bien, Nixon est vraiment le favori du général de Gaulle.
Alors, pour revenir
et pourtant, Dieu sait si Nixon a une image déplorable en France.
Bien sûr, mais revenons sur la relation entre Kennedy et de Gaulle. La fameuse visite...
Cette visite mythique, voilà, qui était traité du
31 mai 61 avec Jackie Kennedy, etc. Bon. En réalité, les émissaires, vous écrivez que les émissaires secrets américains étaient venus à l'Élysée pour préparer l'avenue de Kennedy. Ils étaient tellement
ils étaient
tellement peu sûrs de leur coup que il y a même des espions qui vont jusqu'à se renseigner avant que Kennedy n'arrive en France sur la santé du président.
Est-ce qu'il est en forme?
Les détails de sa vie à l'Élysée, même ses lectures.
Oui, ils veulent savoir ce qu'il lit parce que en fait, il faut quand même lui faire un cadeau notamment, et ils vont lui envoyer le fameux ouvrage de Kennedy qui s'appelle Profil de courage, enfin qui est vraiment le témoignage de Kennedy. Ils savent que De Gaulle est grand amateur d'histoire, donc il faut lui offrir des livres d'histoire. Ils interrogent Mendès France, ils interrogent Chaban-Delmas à l'époque, qui leur dit parlez-lui d'histoire, ça va lui faire du bien. Montrez-lui que vous êtes dans la grande histoire et ça va plaire à De Gaulle.
Et ils disent, ils s'intéressent à la science et plus particulièrement aux problèmes nucléaires. Et alors, alors la conclusion de l'officier de la CIA dans le rapport, aucune idée d'une seule personne n'influence De Gaulle complètement. Il est impénétrable, inaccessible aux idées des autres parce que ses impressions sont déjà forgées et qu'il sait où il veut aller. Voilà ce que pensent les Américains De Gaulle. Donc ils sont soulagés quand il part. Hein.
Non, mais surtout que quand Kennedy arrive, il sait très bien que ça va être une partie de bras de fer très compliquée et qu'il va avoir du mal. Or, il veut le faire bouger sur 2-3 sujets, notamment l'Indochine. Et sur l'Indochine, De Gaulle est inflexible, considère que l'engagement des Américains, notamment au Vietnam, est une erreur totale qui vont droit vers la grande défaite à la fois militaire et politique. Mmh. Et puis sur l'OTAN et la bombe atomique, il commence à redouter que le général veuille vraiment sa bombe atomique.
Alors justement, on va marquer une pause et après on va parler justement de ces années 60 au cours desquelles les États-Unis ont tenté d'empêcher par tous les moyens la création par la France de sa propre bombe nucléaire, hein, grâce à un dispositif d'espionnage et d'obstruction. Là, c'est un dossier pointu. Hein.
Ah oui, là, c'est l'ingérence. Là.
Ça, c'est l'ingérence. On écoute Michel Delpech, une nouveauté, je passe à la télé. J'aime.
Michel Drucker.
Vincent Nouzy, des secrets si bien gardés, les dossiers de la Maison-Blanche et la CIA sur la France et ses présidents, chez Fayard, de 58 à 80. Alors, parlons du dossier nucléaire. Ça, les Américains ont espionné, ont tout fait pour empêcher la France d'avoir sa bombe. Ça, c'est clair.
Ah, ça, c'était une obsession américaine. Alors, il faut se souvenir que les Américains, les États-Unis, sont la seule puissance à avoir utilisé la bombe nucléaire. Donc, il y a une forme d'obsession depuis 1945.
Hiroshima.
Donc, depuis 1945, la crainte d'une prolifération et d'un conflit nucléaire, c'est vraiment une grande, grande obsession des Américains. Et ils redoutent qu'il y ait d'autres puissances qui accèdent à ce fameux club très, 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 très sélect, on va dire, puisqu'il y a l'URSS obtient sa bombe atomique, oui. La Grande-Bretagne, avec l'aide des Américains, l'obtient, mais pas question que d'autres y accèdent. Alors, la Chine, finalement, va y accéder indirectement.
Mais De Gaulle veut la sienne.
Et De Gaulle veut absolument la sienne. Pourquoi il veut la sienne? C'est le symbole de la souveraineté française, de l'indépendance nationale. Il va à la fois sortir du commandement intégré, mettre dehors les 30 000 militaires américains qui stationnent sur le sol français, et il veut sa bombe atomique avec son propre commandement. Parce que le président Kennedy, puis Johnson, lui propose de dire, écoutez, mettons nos bombes atomiques en commun, et puis on décidera ensemble. Évidemment, le général De Gaulle n'y croit pas une seconde. Il croit même pas, d'ailleurs, que les Américains vont vraiment défendre l'Europe une nouvelle fois, y compris en appuyant sur le fameux bouton, si jamais l'URSS voulait envahir l'Europe. Il ne croit pas à cette riposte nucléaire américaine, donc il dit « je veux ma bombe parce que je veux me défendre tout seul, et c'est l'image de la France, et c'est la souveraineté ».
Alors, 2 juillet 1966, 5h34, l'atoll de Mururoa, à 1200 km de Tahiti, la première bombe atomique explose, hein, au-dessus de l'atoll.
Alors,
le tir est baptisé Aldébaran.
Oui, alors, il a été précédé d'un certain nombre d'essais au Sahara. Alors, je raconte une anecdote assez cocasse, qui est qu'à un moment donné, les Français et les Américains ont discuté du possible essai souterrain français en Corse.
Non.
Si, tout à fait.
Souterrain en Corse.
Souterrain en Corse. Parce qu'à un moment donné...
J'appelle belle, les Corses.
vous imaginez une bombe en Corse, mais une grosse oui. bombe. C'était. Oui. Donc, en fait, c'est une hypothèse qui a été étudiée, effectivement, à un moment donné, au tout début des années 60, puis écartée au profit du Sahara. Et puis après, il a fallu trouver un autre endroit, puisque l'Algérie était devenue indépendante.
Mauvais humour en matière de bombes, les Corses n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons. Mais là, c'était un autre niveau.
C'était un autre niveau. Non, imaginez, l'histoire de la Corse eût été totalement transformée par cette aventure. Alors, en fait, à Mururoa, qu'est-ce qui se passe? C'est le lieu, c'est un lieu choisi vraiment aux antipodes, très lointain, pour tester donc les bombes A, les bombes classiques, et puis la fameuse grosse bombe, la grosse thermonucléaire. Et les Américains veulent tout savoir et tout empêcher. Alors,
est-ce qu'ils savaient déjà, les Américains, qu'il y a eu une 15 ou 17 essais qui avaient été menés dès les années 60 dans le Sahara?
Non seulement ils le savaient, mais ils les surveillaient à partir de bases militaires en Libye. Ils avaient installé des stations de surveillance, et parce qu'à l'époque, la Libye n'était pas sous le contrôle du colonel Kadhafi, et ils avaient installé des bases militaires là-bas et des systèmes de surveillance. Donc ils avaient le monitoring, si je peux dire, parfait de ce qui se passait dans le Sahara. Et puis, à un moment donné, ils savent très bien qu'il va falloir changer d'endroit, puisque l'Algérie devient indépendante. Et donc, ils dépêchent tous leurs agents, si je puis dire, aux quatre coins du monde pour savoir où ça va se passer et comment ça va se passer et s'il y a moyen d'empêcher la France. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des directives secrètes des deux présidents successifs, c'est-à-dire Kennedy puis Johnson, pour empêcher la France d'avoir sa bombe, empêcher la France et même empêcher toute, évidemment, assistance américaine à la construction d'une force de frappe, évidemment, qui ne serait pas sous contrôle des Américains. Donc, ces directives, ça veut dire quoi? Ben, Johnson, par exemple, en 64, il impose quasiment un embargo sur tous les matériels qui peuvent aider à la construction.
Il faut dire que les États-Unis s'opposent à tout programme nucléaire des pays qui refusent d'intégrer l'OTAN.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. Comme le général de Gaulle est plutôt rétif et plutôt rebelle et même va sortir du commandement de l'intégrer de l'OTAN, en gros, il refuse qu'on obéisse et que le système de commandement soit totalement intégré. Donc De Gaulle veut sa bombe, veut pouvoir appuyer tout seul sur le bouton, si je puis dire. Et donc ça, c'est insupportable aux yeux des Américains. Donc ils envoient, alors ils vont d'une part empêcher la livraison, par exemple, de gros ordinateurs de calcul, dont le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, sa branche militaire, qui a réellement besoin pour mettre au point la grosse bombe.
Alors, De Gaulle était tellement obstiné qu'il avait, je crois savoir, refusé de signer le traité de limitation des essais nucléaires que Kennedy avait arraché à Khrouchtchev.
Oui, c'est ça. Il refusait parce qu'il savait très bien que pour avoir sa bombe, il fallait faire des essais. Et donc, il fallait continuer d'en faire. Et c'est ce que répétera et Giscard, et Mitterrand, et Chirac jusqu'en 96, la fin des essais. Essais.
Alors, les préventions américaines contre la force de frappe française se renforcent dès que Johnson arrive à la Maison Blanche. Il faut dire que Johnson déteste encore plus De Gaulle que Kennedy. Hein.
Alors, Johnson, il trouve que...
C'est le moins francophile de tous.
C'est le moins francophile de tous. Mais c'est assez réciproque. Le général de Gaulle traite Johnson de radical texan, enfin de cow-boy en quelque sorte.
Cow-boy, oui.
Et réciproquement, le général est perçu comme absolutiste, intraitable, monarchiste, imprévisible. Enfin, il est vraiment, on peut pas discuter vraiment avec lui. Et donc, d'abord, ils ne se voient pas. Ça, c'est le premier point. Ils ne se rencontreront pas. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est consigne d'obstruction et d'embargo sur tous les matériels nucléaires qui peuvent aider le général de Gaulle à faire sa bombe. Espionnage absolument systématique. J'ai raconté cette histoire tout à l'heure de la taupe du Quai d'Orsay qui informe les Américains. Donc tout ça est top secret. On est dans une espèce de guérilla secrète, de guerre souterraine entre les Américains et le général de Gaulle à ce moment-là. Alors ça va jusqu'à des détails étonnants. C'est-à-dire que dès que les Français commencent à regarder, par exemple, la constitution d'une base de lancement de fusée en Guyane, donc ce qui sera Kourou, les Américains sont parfaitement au courant avec leur consul en Martinique. De la même façon, dès que la base du Mururoa commence à être installée avec des premiers navires qui arrivent, des militaires qui font des travaux, eh bien, les Américains envoient leur consul se promener dans le coin. Alors, il veut même avoir un consulat à Papette et le général de Gaulle dit... Non, ça c'est. Mais ils vont, par exemple, envoyer leurs satellites espions, leurs avions espions, photographier les travaux à Mururoa. Donc, on est vraiment dans un dispositif de surveillance. Et lors des essais, lors de ce fameux essai Aldabaran en 66, eh bien, les militaires américains envoient des avions dans une opération qu'ils intitulent Nice Dog, joli chien, et qui est l'opération de surveillance des essais français. Donc, on capte des poussières radioactives pour voir en fond quel est l'effet de ces...
Alors, malgré tous leurs efforts pour freiner les Français, finalement les Américains n'ont pas réussi.
Non.
Puisque on a réussi, De Gaulle a réussi sa bombe et Kourou. Et en Guyane, quand Pompidou est arrivé, il a signé un arrêté pour créer le futur centre spatial guyanais, d'où décollent toutes les fusées françaises.
Donc en fait, on est dans une tentative d'obstruction, vraiment, on limite. Et vous savez, c'est en fait ce qu'ils pensent, les Américains. Ils pensent que le général de Gaulle ne va pas y arriver.
Ouais.
Ce sera trop cher, cette bombe. Et il parie, en fait, sur l'âge du général. Ouais, il se dit, oh, il va vieillir, il va partir, et son successeur n'y arrivera jamais non plus. Et ils ont tort.
Alors, dans quelques instants, on va parler des relations de Pompidou et de Giscard avec l'Amérique, et ensuite François Mitterrand, où là, c'est encore gratiné. Hein. On va écouter Johnny Rivers, Secret Agent Man, évidemment. L'agent secret devait chanter aujourd'hui.
On retrouve Michel Drucker pour cette histoire de la Ve République façon Vincent Nouzille. Notre histoire éclairée par des milliers de documents confidentiels issus de la CIA et de la Maison Blanche.
Vincent Nouzy, alors, maintenant parlons de Pompidou. Ils ont eu du mal, les Américains, à cerner. Hein.
Mais c'est un drôle de personnage, Pompidou. Hein. C'est à la fois un banquier et puis un paysan matois, en quelque sorte.
Il préférait Poher.
Qui
était le président du Sénat et qui assurait l'intérim après la mort de...
Il savait bien que Pompidou était le favori, en quelque sorte, dans les élections. Oui. Mais ils ont toujours, c'est leur tendance générale dans toutes les élections, et là, ça c'est assez intéressant de le remarquer, c'est que dans toutes les élections, ils préfèrent toujours le candidat le plus atlantiste qui soit, celui qui voudra revenir dans l'OTAN, qui aura les positions les plus pro-américaines.
Donc les Américains auraient bien aimé Poher, ils sentaient pas Pompidou, mais enfin bon, Georges Pompidou, 44% des suffrages au premier tour, les jeux sont faits, et la campagne du deuxième tour va confirmer la tendance du premier. Donc, alors est-ce qu'on peut dire que Pompidou va essayer de
rattraper son image,
de faire que les deux pays se réconcilient?
Oui, en fait, dès son élection, il va montrer un beaucoup plus grand pragmatisme dont les Américains se féliciteront sur un certain nombre de sujets. Et notamment, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'obstruction américaine vis-à-vis de la force de frappe française, donc de la bombe. Eh bien, les Américains vont changer complètement l'attitude et le président Pompidou, lui aussi. Il va se passer quelque chose qui est totalement, que je révèle normalement dans le détail, qui est une inversion totale de cette politique. Autant on était dans une guerre secrète pendant toutes les années 60, la période de Gaulle, eh bien là, on va avoir une coopération secrète qui va émerger, un pacte secret entre Pompidou et Nixon sur le terrain nucléaire.
D'accord, mais ça n'empêche pas la CIA d'avoir des relations privilégiées avec les leaders politiques de l'opposition.
Alors, tout à fait.
Gaston Defferre, Rocard, Chevènement, Mitterrand, car il prépare déjà l'après de Gaulle.
Alors, en fait, si on revient un tout petit peu en arrière, parce que dès 1965, les Américains se disent, bon, ben, de Gaulle a été relu une fois, mais enfin, en 65, mais enfin, ça suffit comme ça, il va bien finir, il finira pas son mandat, il va bien se passer quelque chose. Mai 68, les serres, le départ du général en avril 69 aussi, donc, ils ont voulu anticiper ce qui allait se passer. Et dans le fond, à leurs yeux, tous les autres dans le dispositif des hommes politiques français, à part les communistes qu'ils ont du mal à fréquenter tout de même, eh bien, il y a des gens qui sont tout à fait fréquentables. Il y a les centristes, le Canuet, Pinet, des gens comme ça, Maurice Faure, enfin des gens dont on a oublié le nom aujourd'hui.
Et puis Rocard. Ce que vous écrivez sur les relations entre les services secrets américains et Rocard sont étonnants.
Alors, sur Rocard, par exemple, on découvre une chose tout à fait stupéfiante, c'est que, à l'époque, il faut se souvenir que Michel Rocard, c'est un inspecteur des finances, mais il dirige un petit parti qui s'appelle le PSU, petit parti plutôt classé d'extrême gauche, et qui prône l'autogestion et qui a plutôt une lecture assez marxiste de la société. Et ce Michel Rocard, aux yeux des Américains, est un homme absolument formidable. Ils le qualifient d'intelligent, de dynamique, de très ouvert sur l'international. Alors, c'est vrai que lorsqu'ils reçoivent Michel Rocard pour, par exemple, déjeuner à l'ambassade des États-Unis, Michel Rocard, dans le fond, ne paraît pas d'un marxisme invétéré. Il est plutôt bon social-démocrate, très ouvert sur les États-Unis, etc. Donc, quelque part, c'est typiquement le genre d'homme politique sur lequel les Américains veulent parier. Et ils vont en faire presque une forme de consultant permanent de la vie politique française. Michel Rocard me l'a confirmé, d'ailleurs.
Alors, bien entendu, pendant ce temps-là, les Américains savent, parmi les premiers, que Pompidou est malade.
Oui, ils savent qu'il est malade. Ils ne savent pas, ça m'a étonné, mais je cherchais évidemment des informations sur le fait qu'ils sachent réellement qu'il avait un cancer du sang. Et en réalité, d'après les rapports, Nixon demande des rapports lorsqu'il y a, vous savez, on voit ces images de Pompidou un peu bouffi, qui est fiévreux, qui est un peu malade. Et il se demande ce qu'il a. Et à mes yeux, selon les rapports déclassifiés que j'ai pu consulter, ils ne le savent pas jusque très tard. Ils se doutent, il y a des rumeurs sur un cancer, mais ils ne le savent pas, ils sont un peu surpris. En revanche, que l'ambiance de la fin du règne de Pompidou soit crépusculaire, je le décris, c'est absolument terrifiant. Ils pressentent qu'il va y avoir une élection très très vite et que Pompidou ne va pas durer et qu'il va... Et puis, la fin de la période Pompidou est plutôt très très cruelle. Enfin, il y a une espèce de différent. Vous savez, vous vous souvenez peut-être de Michel Jaurès, Jobert. Michel Jobert, oui. C'était un grand ministre des Affaires étrangères.
Très grand, enfin très grand, pas par la taille.
Pas par la taille. Et alors, les Américains, dans un premier temps, considéraient qu'il était peut-être un ami américain parce qu'il était marié à une Américaine.
Exact.
Exact. Mais en réalité, lorsqu'il devient ministre des Affaires étrangères en 1973, eh bien, Jobert va prendre des positions très anti-américaines, et notamment lors de la crise du pétrole, très pro-arabe, plutôt anti-israélienne. Tout ça déplaît beaucoup à Washington. Et donc, le climat entre l'administration française et l'administration américaine sera très, très froid, très glacial à la fin de 73 et donc au début de 74 lorsque Pompidou va mourir.
Alors, d'abord, avant la mort de Pompidou, le 9 novembre 70, le général meurt à Colombey. Alors, Pompidou ne va régner que 5 ans. Et Giscard arrive. Alors, est-ce que là, les Américains souhaitent créer un nouveau réseau d'influence?
Oui, en fait.
Quelle est l'attitude de Giscard par rapport à l'Amérique?
Alors, tant du côté des socialistes que des centristes que de ce qui va s'appeler les républicains indépendants, donc la tendance Giscard, oui. Ils cultivent leur relation. Alors, il faut savoir que j'ai trouvé des notes, par exemple, dès 1962, alors que le général de Gaulle est vraiment au cœur, enfin, en plein pouvoir, les Américains disent, nous avons des relations, des très bonnes relations avec tous les successeurs potentiels. Donc, vraiment, ils misent très loin. Et puis, à la fin des années 60, ils regardent vraiment tout ce qui se passe. Par exemple, Gaston Defer, c'est vraiment leur copain. Il est reçu, lui, alors que de Gaulle ne l'a pas été, il est reçu, lui, par Johnson à la Maison-Blanche, avec des félicitations, des encouragements, etc. Mitterrand, lui, vous savez ce qu'il dit aux Américains? Il leur dit, mon but, c'est de renverser le général de Gaulle et d'instaurer une politique pro-américaine. Il le dit alors qu'il est socialiste et qu'il est... Rocard ne dit pas tellement la même chose. Et donc, les Américains sont extrêmement séduits par ce discours. Alors, on les comprend.
Les Américains ont eu des relations avec tous les futurs hommes politiques plus importants de notre pays très tôt. Par exemple, vous parlez d'un déjeuner avec l'ambassadeur des États-Unis en octobre 67, oui. où Chirac, qui est un jeune loup de la politique, hein, impressionne par sa ferveur américaine et son peu d'entrain gaulliste. Il faut dire que Jacques Chirac avait fait ses études en Amérique.
Il a fait quelques petites études aux États-Unis.
Des petits boulots.
Des petits boulots. Alors surtout, Chirac, qui est jeune secrétaire à l'emploi, jeune député de Corrèze, qui fait vraiment partie de la jeune garde, si je puis dire, de Pompidou et à l'époque, en 67, et de Gaulle, eh bien, il est très américanophile. Il dit qu'il adore les hamburgers, qu'il adore la culture américaine. C'est le plus américanophile. Et les Américains, qu'est-ce que vous voulez quand on leur dit qu'on adore leur hamburger, eh bien, ils sont séduits. Au-delà de ça, il remarque que lorsque Chirac parle, il ne prononce jamais le nom du général de Gaulle. Il n'est pas très gaulliste, dans le fond.
Non, c'est vrai.
Et donc, tout ça leur plaît beaucoup. Donc, ils vont cultiver des bonnes relations avec ce jeune Chirac, 67, secrétaire d'État à l'emploi, premier ministrable en 73,
il le suit
de près. 74, Giscard est élu, il sera premier ministre. Alors là, ils sont très contents.
Absolument. On va se retrouver dans un instant.
Michel Drucker et Vincent Nouzi, on parle des dossiers de la Maison Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents.
Alors les relations, Vincent Nouzi, entre l'Amérique et Giscard ont été différentes. Hein. Elles ont été bonnes, moins bonnes.
Alors au début, dans les années 60, c'était un brillant ministre des Finances.
Et puis il est surtout très jeune.
Il est surtout très jeune.
C'est notre Kennedy à nous.
Voilà, il regarde les élections, les campagnes électorales, il a déjà une petite idée en tête quand même, Giscard. Ils savent très bien qu'il rêve de quelque chose. Et les ambassadeurs américains qui le voient à Paris disent de lui vraiment qu'il est dynamique, intelligent, qu'il ira loin, qu'il a une grosse ambition. Enfin, ils sont pas dupes de ses ambitions éventuellement présidentielles. Mais Giscard est très malin puisqu'il est à la fois un allié des gaullistes, il est un peu critique, il dira non. Il s'abstiendra pour le référendum de 69. Mmh. Et donc, quelque part, cette position un peu de recours, eh bien, il le surveille. Alors, 74...
Il le surveille et ils essaient de le séduire aussi. Hein.
Ils essaient de le séduire, ils l'invitent aux États-Unis. Enfin, bon, il y a toute une tactique très, très, très classique, on va dire, de relations, de bonnes relations. Et puis, 74 arrive et là... Les élections sont assez disputées, il faut s'en souvenir, entre Mitterrand et Giscard. Au deuxième tour, Chaban Delmas, qui était le candidat gaulliste, a été écarté. Je révèle un truc très drôle, d'ailleurs, c'est qu'il a, quasiment à la fin de la campagne, les partisans de Chaban savent que la cause de Chaban est un peu perdue. Ils font appel aux Américains pour tenter de soutenir, pour que les États-Unis soutiennent Chaban, ce qui est quand même un des paradoxes les plus étonnants de la situation. Bref, Chaban est battu au premier tour, donc il reste Giscard, Mitterrand. Et entre les deux, on se rend compte à travers les télégrammes diplomatiques que je révèle que c'est pas si dramatique que ça si Mitterrand est élu. Ils savent très bien qu'il y aura des crises parce que l'union de la gauche, c'est quelque chose dont ils se méfient beaucoup. Mais le personnage de Mitterrand les a séduits et Giscard, qui est très intelligent, ils le décrivent comme un technocrate brillant, etc. Ils savent très bien qu'il n'est pas très populaire.
Oui, ils sont séduits aussi par Mitterrand parce que c'est l'homme qui a défié De Gaulle au second tour d'une élection qui est dans toutes les mémoires.
Voilà.
Donc voilà.
Et puis que Mitterrand n'a jamais fait preuve d'une opposition farouche aux Américains. Au contraire, il est anticommuniste et atlantiste. Que demandent les États-Unis? Vraiment, ils peuvent pas rêver mieux. Le seul problème,
c'est surtout Mitterrand, s'il est élu, c'est un rempart possible contre le Parti communiste.
Oui, alors ils savent pas trop. Il faut savoir que l'influence du Parti communiste à l'époque, le Parti communiste est entre 20 et 25% des voix, donc ça pèse beaucoup. Et les socialistes sont en dessous. Donc ils redoutent quand même que les communistes n'imposent leur loi à Mitterrand s'il est élu. Mais ils ont compris que ce Mitterrand est quand même très malin.
Et oui, donc, parce qu'il faut rappeler ce que vous avez dit. Mitterrand confie à un monsieur qui s'appelle Charles Bolen, l'ambassadeur. Ouais. Mon objectif, c'est de renverser le gaullisme. Après quoi, je mènerai une politique pro-américaine. Il faut le répéter, ça.
Ah oui, c'est quand même assez stupéfiant d'avoir ce genre de confidences qui sont donc dans ces archives. Ça permet de voir que les Américains auront finalement moins d'appréhension lorsqu'ils vont voir cette montée en puissance dans le fond de l'Union de la Gauche et de François Mitterrand dans la France des années 60-70. Alors, Giscard quand même est leur favori, hein, il faut pas se leurrer. Il est plutôt pro-américain, il est plutôt moderne, il est jeune, il est technocrate, il a beaucoup voyagé. Donc, il déteste pas ce Giscard. Mais d'une certaine façon, à partir du moment où il est élu, c'est plutôt atlantiste, Giscard. Il va avoir des positions plutôt classiques. Dans le fond, les Américains considèrent qu'il doit leur obéir. Et quand Giscard va commencer à vouloir imposer un certain nombre de choses, ou leur dire deux, trois petites choses, eh ben ils vont commencer à critiquer ce Giscard. Et il y a des notes d'une cruauté sur Giscard. Dès qu'il arrive au pouvoir, ou dès qu'on va le rencontrer, dès que les présidents américains vont le rencontrer, ils le traitent d'amateur, ils le traitent de dilettante, ils disent qu'il a des faiblesses terribles. J'ose à peine citer les rapports américains sur le sujet. Ils disent qu'il a trois faiblesses. La paresse, bon, pourquoi pas. Les femmes, ils disent qu'il est indiscret. Et puis, son
la CIA entourage s'occupe de la vie intime.
Voilà, exactement. Donc, ils savent très bien que ce qui se passe dans les allées du pouvoir. Alors, leur jugement est parfois cruel, parfois évidemment subjectif, hein. Il faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. Mais c'est très intéressant de voir qu'au lieu d'avoir une relation plutôt cordiale, eh bien, les Giscard va avoir des relations assez froides avec les administrations américaines.
Alors, ce qui est assez frappant quand on vous écoute, c'est que la CIA, les Américains, ils ont plusieurs fers au feu, hein.
Toujours.
Ils ont plusieurs poulains. Il surveille Mitterrand, mais il se dit, si on fait venir Rocard en Amérique, il va revenir...
Il aura les meilleures idées sur nous, il pourra diffuser une meilleure image de l'Amérique. Ouais. Donc, ils vont d'ailleurs inviter comme ça des dizaines et dizaines de leaders politiques aux États-Unis. Alors, il y a Defer, il y a Charles Ernu. Alors, Charles Ernu, c'est un personnage étonnant. Tout le monde se souvient qu'il était ministre de la Défense de Mitterrand. Il y a eu des soupçons sur le fait qu'il avait été un honorable correspondant des services secrets de l'Est pendant les années 50 et 60. Eh bien, je révèle qu'il a été considéré comme un honorable correspondant de la CIA à Paris dans les années 60 et 70, qu'il avait des relations très étroites avec les Américains et qu'il faisait preuve lui aussi d'un atlantisme absolument effréné. Il est invité aux États-Unis pendant 3 semaines et quand il passe à Washington, il dit aux Américains, mais vous avez raison, et puis au Vietnam, vous avez raison, et puis continuez comme ça. On se pince quand même d'entendre ça. D'abord, Charles Ernu, futur ministre de la Défense de la France. Charles Ernu, soupçonné d'être un agent de l'Est. Charles Ernu, honorable correspondant de la CIA. Voilà quand même des informations assez étonnantes. Et c'est un des plus proches collaborateurs de François Mitterrand à l'époque.
Mais on peut dire que Michel Rocard a été un peu une sorte de consultant des Américains.
Oui.
Sur la vie politique française, y compris ces dernières années, dites-vous, sous Chirac et Sarkozy.
Oui, d'ailleurs, c'est lui-même qui me l'a dit. Donc,
il se souvient de ses voyages en Amérique.
Il se souvient très bien qu'il est, de temps en temps, les diplomates américains l'appellent en disant « Qu'est-ce que vous pensez de la situation ?» Y compris sur Chirac, y compris sur Sarkozy. Donc, on l'écoute, on le consulte. Alors, on n'est pas un agent de la CIA ou un agent des Américains en discutant avec eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même cette partie de discussion secrète qu'on ne connaissait pas et que je raconte vraiment dans le détail.
Allez, on va se retrouver pour une dernière partie avec vous. Mais d'abord, on va écouter Ariane Moffat, « Je veux tout ».
veut tout. Déclaration d'Ariane Moffat. C'est un nouvel album d'Ariane Moffat qui sortira le 4 mai. Ben, c'est bientôt.
En reparlant des relations entre Giscard et l'Amérique, j'ai retrouvé le nom d'un monsieur qui compte beaucoup, hein, qui est Jean-David Lévit, qui est conseiller actuel de Monsieur Sarkozy, qui a été ambassadeur de France à Washington et qui est déjà là au moment des législatives en 78.
Quelle n'a pas été ma stupéfaction de découvrir
c'est
des
notes ça.
Oui. Signé de Jean-David Lévit, alors qu'il était en réalité conseiller diplomatique du président Giscard d'Estaing, donc entre, je crois qu'il est arrivé à l'Élysée vers 75, donc entre 75 et 81, eh bien, Jean-David Lévit était un jeune conseiller diplomatique. Et vous savez ce qu'il faisait? Il avait des très bonnes relations avec les Américains à l'Élysée, quand il était, donc il travaillait à l'Élysée avec Giscard. Mmh. Et il avait des très bonnes relations avec l'ambassade des États-Unis. Et les Américains le prévenaient d'un certain nombre de choses. Et je raconte une histoire qui est absolument stupéfiante, qui est le fait que, avant les élections législatives de 1978, la gauche était plutôt donnée gagnante. Et Giscard était très furieux de savoir que les Américains pouvaient éventuellement, non pas soutenir la gauche, mais en tout cas accepter éventuellement cet éventuel fait accompli. Et donc, Giscard voulait surveiller tout ce que faisait Mitterrand avec les Américains, et même il fera passer des messages pour empêcher que les Américains, que les présidents américains ne reçoivent Mitterrand. Et ça marchera d'ailleurs.
Et d'ailleurs, Giscard était très énervé de ses contacts établis entre Mitterrand et l'Américain.
Ah oui, très, très énervé. Et donc, son conseiller diplomatique de l'époque, donc, Jean-David Lévit, intervient auprès des Américains et leur dit, bon, dès que vous avez une info ou un renseignement, un tuyau sur ce que font les socialistes, eh bien, prévenez-moi. Ils vont même plus loin. S'il y a des contacts avec des communistes, eh bien, prévenez-moi aussi. Alors, c'est exactement ce qui va se passer. Les diplomates américains qui pressentent que la gauche va peut-être arriver au pouvoir veulent quand même savoir ce que les communistes français pensent du futur gouvernement, éventuellement de la France. Et ils envoient deux diplomates secrètement voir l'un des plus hauts responsables du Parti communiste français qui s'appelait Jean Canapa, qui était le patron des relations internationales du PCF, pour discuter avec lui et savoir ce qui... quelle pourrait être l'attitude du PC vis-à-vis notamment des États-Unis s'il est arrivé au pouvoir. Et vous savez ce que dit Canapa? Canapa dit, ne vous inquiétez pas messieurs les Américains, nous ne réclamerons pas des postes clés dans le gouvernement de la gauche, nous serons discrets, il est plutôt très très cool, il est pas très agressif vis-à-vis des Américains. Donc les Américains sont plutôt rassurés par ce discours des communistes, rassurés par ce que leur a dit Mitterrand, font des rapports donc sur leurs entretiens secrets avec les communistes. Et ces rapports, eh bien, ils fuitent. Et ils fuitent à l'Élysée. Et c'est Jean-David Lévit qui les récupère et qui fait des notes pour Giscard en disant « Vous savez ce que raconte Canapa aux Américains? Vous savez ce que raconte Mitterrand aux Américains ?» Voilà. Donc c'est l'espionnage des relations entre les communistes et les Américains qui arrive, les renseignements qui arrivaient à l'Élysée via Monsieur Lévit.
Ce qui est assez étonnant, c'est que bon, votre prochain ouvrage est prévu en 2010. Et là, il couvrira déjà la période de 80 à aujourd'hui. Mais si vous en faites un troisième dans 20 ans, on retrouvera d'autres notes signées Jean-David Lévit, mais cette fois avec Sarko.
Alors,
il est toujours à l'Élysée.
Je vais vous dévoiler un petit secret sur la préparation de mon tome 2, donc celui qui portera sur de 80 à aujourd'hui, donc la période Mitterrand, Chirac et le début de Sarkozy, eh bien, j'ai déjà dans mes soutes des notes de Jean-David Lévit.
C'est extraordinaire.
Sous la période de Chirac, parce que Jean-David Lévit a été non seulement ambassadeur de France aux États-Unis.
Bien sûr.
On le constate, conseiller diplomatique du président Giscard, mais il a été surtout conseiller diplomatique de Chirac. J'ai pas mal de documents sa main.
De tous les présidents de la Ve République, hein, de Gaulle jusqu'à Sarkozy, disons jusqu'à Mitterrand. Quel est le président que les Américains ont le plus apprécié finalement? Le plus américanophile, c'était peut-être Chirac.
Ça peut paraître paradoxal, mais vous avez totalement raison.
Alors qu'il a combattu Bush sur le terrain de l'Irak.
dans le fond, c'est sa dernière guerre, c'est sa guerre de sortie, on va dire. Ouais. C'est sa guerre d'image. Je raconterai beaucoup de détails sur cette histoire lors de mon du prochain volume de cette grosse enquête. Et en fait, on s'apercevra que d'abord, dès sa jeunesse, je raconte ses relations américanophiles. Il a fait un été à Harvard, il mange des hamburgers, il fume des cigarettes américaines. Enfin, il y a plein de détails comme ça très cocasses sur son comportement et sur ses positions aussi. Et en fait, dès qu'il est élu en 95, mais ça, je raconterai ça dans le détail, eh bien, ses relations avec les Américains seront excellentes. Il veut revenir dans l'OTAN. Il met des conditions. Il veut revenir dans l'OTAN avant que Sarkozy prenne la décision en 2009. Donc, Chirac, il y a dans le fond sa position contre Bush sur l'Irak, c'est une forme, c'est pas un paravent, mais dans le fond ça obscurcit le reste de sa position et de sa carrière politique qui est très américanophile. Le second dans le rang des américanophiles, c'est Mitterrand.
Absolument.
Beaucoup plus que Giscard et beaucoup plus que
Mitterrand,
que
l'atlantiste.
Mitterrand est un atlantiste assez paradoxal puisqu'il s'allie aux communistes. Mais dans le fond, il a prévenu les Américains très tôt. Vous savez ce qu'il leur a dit aux Américains? Je vais réduire l'influence du Parti communiste français. C'est moi qui vais le faire. Faites-moi confiance.
Mais, il y a une surprise quand même que vous avez eue lors de vos recherches dans les archives américaines. Bien avant qu'il n'accède au pouvoir en mai 80, Mitterrand avait noué des contacts, on l'a dit, secrets avec les Américains. Et leur jugement était sévère. Hein. Dès la fin de la 4e République, le jeune Rastignac de la politique, qui est donc repéré par les diplomates américains, et écoutez ce qu'ils disent, hein, un opportuniste, prêt à brandir n'importe quelle épée en échange d'une promesse d'avancement personnel.
Oui,
c'est sévère, ça.
Hein oui, c'est tout à fait sévère. Et en même temps, lorsqu'il va progressivement bâtir sa stratégie, je raconte une scène qui est très étonnante. Ça se passe en novembre 70. Mitterrand est encore à la tête d'un petit groupuscule qui n'est pas le Parti Socialiste. Et il rencontre un diplomate américain. Il lui dit, vous savez ce que je vais faire? J'ai ma stratégie politique. Eh bien, d'une part, je vais prendre le Parti Socialiste.
Ah oui. Il est catégorique. Hein.
Il est catégorique. Donc, ce sera effectivement le congrès d'Épinay en juin 71.
Ensuite,
je vais faire un programme pour le Parti Socialiste. Ensuite, je vais faire l'union de la gauche avec les communistes. Je vais réduire leur influence et je serai élu président dès que possible. Oh, l'échéance à l'époque, c'était 76.
C'est ce qui s'est passé.
Ça devait être 76, la fin du mandat de Pompidou. Le décès de Pompidou a avancé cette élection. Il s'en est fallu d'un cheveu en 74 pour qu'il gagne et ça a été reporté en 81. Mais dans le fond, les Américains sont stupéfaits. D'abord, des confidences faites par Mitterrand sur ce terrain, de sa vista politique, de son cynisme vis-à-vis du Parti communiste. À leurs yeux, ils savent très bien, et Mitterrand leur a dit, mais les positions du Parti communiste sont totalement anachroniques, c'est le 19e siècle. Et ils savent très bien que Mitterrand veut se servir du Parti communiste comme un tremplin pour arriver au pouvoir.
Et il est resté 14 ans pour.
Et il est resté 14 ans pour.
Merci infiniment, Vincent. C'est passionnant. Moi, j'attends avec impatience votre deuxième volet. C'est prévu pour 2010. Vous y travaillez déjà, bien sûr.
Ah oui, j'y travaille. Je suis de plus en plus passionné.
Merci infiniment. Voilà, le week-end arrive. Lundi, je vous propose une immersion dans les coulisses d'un des plus grands phénomènes littéraires de ces dernières années, Guillaume Musso. Que serais-je sans toi? Comment on écrit des best-sellers? Comment un tube littéraire est préparé? Est-ce qu'il y a des recettes? On verra ça lundi. Merci, bon week-end.
À lundi, c'était Michel Drucker. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.